Bienvenue à tous dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Au programme du Labomatique cette semaine, je vous propose une interview réalisée en compagnie de Dominique Pouille, chercheur à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. En sa compagnie, nous revenons sur les fouilles archéologiques menées place Sainte-Anne entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2013. La semaine dernière, nous visitions le chantier de la place Saint-Germain juste avant sa clôture. Cette fois, il s'agira de rappeler les découvertes de la place Sainte-Anne au moment où les postes fouilles s'apprêtent à démarrer dans les locaux de l'INRAP. Directeur de publication de l'ouvrage Rennes antique, paru en 2008 aux presses universitaires de Rennes, Dominique Pouille et son équipe disposaient déjà d'une solide connaissance de la période antique.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus.
Pour démarrer cet entretien, c'est qu'à l'apparition de cet ouvrage en 2008, vous vous étiez appuyé sur les récentes fouilles de l'époque, donc notamment celle de la place Hoche et celle de la rue de Saint-Malo. C'est ainsi que l'INRAP, par votre intermédiaire, était déjà très au fait de l'histoire antique de Rennes, anciennement appelée Condate.
Oui, bonjour. Effectivement, disons que la publication de cet ouvrage, donc Rennes antique, fait suite à une thèse que j'ai soutenue à l'Université de Rennes 2. C'est une étude qui porte sur l'ensemble des découvertes archéologiques qui ont été faites à Rennes depuis qu'il existe de l'archéologie, finalement. Donc j'ai repris toutes les mentions de découvertes anciennes du 18e, 19e siècle, du début du 20e siècle, et puis j'ai confronté ces données avec les résultats des fouilles récentes, de façon à pouvoir établir une synthèse des connaissances sur la ville antique. Et effectivement, les principales fouilles qui ont été utilisées dans cet ouvrage, ce sont les fouilles du parking du campus de la Place Hoche et puis de la rue de Saint-Malo, qui étaient finalement à l'époque les grandes fouilles récemment menées, hein, sachant que la fouille de la Visitation, qui est un peu plus récente, était encore les données étaient encore en cours d'étude, donc pas complètement disponibles.
Parce que en fait, à la place Sainte-Anne, l'idée c'était aussi d'approfondir encore un peu plus ses connaissances sur le Rennes antique. Donc vous aviez déjà un solide bagage grâce notamment à l'apparition de cet ouvrage, mais à la compilation de toutes ces données, il existait déjà énormément de données à ce sujet.
Oui, effectivement, depuis quelques années, on connaît bien maintenant le sous-sol de Condate, hein, puisqu'on a étudié environ 2 hectares, de 2 hectares à 2 hectares 5 donc, de vestiges archéologiques, hein, depuis 20 ans. Et donc ça nous a permis notamment d'ébaucher une hypothèse de restitution de la trame urbaine, hein, sachant que Condate est ce qu'on appelle une fondation ex nihilo, et donc une ville créée de toutes pièces au début de l'époque antique. Elle respecte finalement les modèles classiques, c'est-à-dire que c'est une ville avec une trame de rue orthogonale, un carroyage régulier, relativement régulier, et donc grâce aux différentes fouilles qui ont été menées, on peut restituer en partie du moins pour la partie nord de la ville ce carroyage de rue. Et donc les fouilles que nous menons maintenant s'insère dans ce carroyage assez régulièrement. On peut d'ailleurs le compléter, hein. Ça a été notamment le cas place Sainte-Anne, puisqu'on a découvert une nouvelle rue de la ville antique, hein, qui n'était pas connue.
J'allais dire, parce que les premières fouilles place Sainte-Anne, c'était donc en 1998. Il y a eu aussi la Visitation en 2004, puis ensuite encore le couvent des Jacobins. La fouille dont on parle aujourd'hui, c'était un peu le chaînon manquant de ce quartier finalement, puisqu'elle se situe au croisement de tous les sites que je viens de citer.
Oui, finalement, effectivement. Alors bon, c'est vrai que la fouille de la station de métro, de la première station de métro en 1998, n'a pas donné énormément de renseignements concernant l'époque antique, puisque les niveaux antiques avaient été perturbés par des installations postérieures de la fin du Moyen-Âge, un hôpital dont on reparlera peut-être après. Et par contre, effectivement, la fouille de la Visitation en 2004 et celle du couvent des Jacobins ont donné énormément d'informations, et la nouvelle station de métro se situant effectivement à mi-chemin entre les deux a permis de compléter le puzzle. On a notamment retrouvé entre les deux, bon, on s'y attendait, hein, le prolongement d'une rue qu'on avait à la Visitation et aux Jacobins, donc c'est tout à fait logique. Et ce que je disais tout à l'heure, la nouveauté, c'est que à cet emplacement, non seulement on a retrouvé le prolongement de cette rue, mais on a retrouvé une autre rue perpendiculaire perpendiculaire, donc un carrefour. Donc, ce qui complète de façon intéressante la trame urbaine.
On va essayer de revenir un peu sur les différentes étapes de la fouille telle qu'elle a été menée donc, entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2014, comme on l'a précisé tout à l'heure, parce qu'on aurait l'impression que c'est plus d'actualité, mais en fait, ça l'est encore dans la mesure où les post-fouilles vont démarrer, comme nous en parlions tout à l'heure. Donc avant de revenir ensemble sur tout ce que cette recherche a pu apporter, la semaine dernière, nous rencontrions votre collègue Laurent Bochet qui nous expliquait les différentes phases d'une recherche archéologique donc sur le terrain, et donc notamment la première phase de décapage, c'est-à-dire l'enlèvement de la première couche du sol, qui dans le cadre de la place Saint-Germain a révélé des données intéressantes sur la période contemporaine. Est-ce que ça a été aussi le cas pour la place Sainte-Anne ?
Non, malheureusement, pour la place Sainte-Anne, la période contemporaine n'a rien livré de nouveau, hein, puisque finalement, cette place Sainte-Anne a été créée à la fin du XVIIe siècle. Mm-hmm. Alors, il y a effectivement eu quelques petites modifications du paysage, puisque à l'origine, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il y avait des maisons à l'emplacement de l'actuelle église Sainte-Anne-Saint-Aubin. Donc, cette partie-là a été modifiée, mais c'est vrai que pour la période contemporaine, finalement, c'est bien une place qui existe depuis très très longtemps, que nous avons retrouvée lors du décapage archéologique. Donc rien de bien nouveau de ce côté-là. Hein, la nouveauté vient des niveaux plus anciens, effectivement.
Eh bien, allons-y dans ces niveaux un peu plus anciens. Donc, vous connaissiez avant les fouilles donc déjà l'existence d'un hôpital qui datait donc du XVe siècle, qui était situé au nord-ouest de la place. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en toucher un petit mot, c'est-à-dire nous décrire peut-être un peu sa configuration matérielle, son fonctionnement? Est-ce qu'on a des données un peu sur ces points-là?
Alors oui, effectivement, en ce qui concerne l'hôpital, c'est un hôpital que nous connaissions un peu, puisque lors de la fouille de la première station de métro, ce sont justement les bâtiments de cet hôpital qui ont, par leur installation, perturbé les vestiges antiques dont je parlais tout à l'heure, et donc il ne restait pas grand-chose en termes de stratigraphie antique. Par contre, effectivement, nous avions les fondations des bâtiments liés à cet hôpital. Les niveaux de sol qui étaient à peu près à l'altitude d'aujourd'hui n'étaient évidemment plus présents. Mais ces fondations donc des bâtiments de l'ancien hôpital nous ont permis de rétablir en partie le plan et surtout le plan des bâtiments, je dirais des communs de l'hôpital, hein, mm-hmm. puisqu'il y avait des sortes d'habitations, des salles pour les malades, et puis il y avait aussi une chapelle, mais cette chapelle se situait en dehors de l'emprise de la station de métro. Et nous avons également retrouvé l'emplacement d'une ancienne buanderie qui était une énorme cuve très, très profonde, réutilisant le creusement d'une carrière plus ancienne pour sa citerne à eau. Et donc cette buanderie, semble-t-il, dont le projet date de la toute fin du XVe siècle, a été abandonnée. Le projet n'a pas été mené à terme. Et donc cette immense cuve, hein, qui faisait plus de 8 mètres par 12, c'est quelque chose de gigantesque, sur plus de 4 mètres de profondeur, cette immense cuve a ensuite servi de dépotoir de l'hôpital pour les dernières années de fonctionnement, c'est-à-dire toute la première moitié du XVIe siècle. Et donc on a retrouvé dans ce creusement qui était resté en eau, on a retrouvé énormément de vestiges mobiliers, c'est-à-dire mm-hmm. des objets de la vie quotidienne, donc des céramiques évidemment, énormément de rejets de consommation, que ce soit des fruits, des noyaux, des graines, on a retrouvé des ossements, on a retrouvé des tissus, des objets en bois, des écuelles, des cuillères, des peignes, des objets en métal. Enfin bon, vraiment, c'était le dépotoir qui nous permet de bien cerner la vie quotidienne à l'époque dans cet hôpital.
Et donc, est-ce qu'il s'agit des objets qui sont exposés dans la station de métro de la place Sainte-Anne, puisqu'on sait aujourd'hui que des objets y sont exposés? Et si c'est le cas, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot peut-être sur cette exposition?
Oui, alors effectivement, une partie des objets qui sont exposés renvoie justement à cette découverte, hein, de ce gigantesque dépotoir. Évidemment, par contre, les objets exposés, ce ne sont pas les originaux, puisque, bien sûr, les objets en bois, par exemple, hein, si on prend le cas des écuelles et des cuillères, donc ces objets en bois étaient conservés dans la vase, hein, puisque c'était une sorte de vase. Donc il a fallu un traitement spécial pour enlever l'eau, pour assécher le bois, pour le solidifier, le conserver. Ces objets nécessitent des conditions de conservation très particulières. Ils sont aujourd'hui au musée. Par contre, effectivement, il a été effectué des copies. Les céramiques également, ce sont des copies, ce ne sont pas les originaux, pour que le public puisse profiter de ces découvertes dans la station de métro.
Il est impossible de garantir la conservation des objets trouvés dans le cadre, par exemple, du métro.
Disons que ça serait possible, mais ça nécessiterait des vitrines avec un contrôle de l'hygrométrie, des températures, etc. Ça serait beaucoup trop compliqué et trop onéreux. Donc, les originaux, leur place est au musée, c'est indéniable.
Autre découverte, donc, c'est bien sûr celle de l'ancien cimetière de l'hôpital. Alors, nos auditeurs se souviennent peut-être des squelettes que le public pouvait apercevoir derrière les grilles du chantier. Qu'avez-vous trouvé sur place et qu'est-ce que les recherches menées ultérieurement vous ont permis de préciser ?
Alors effectivement, complétant donc la perception de l'hôpital que nous avions eue lors de la première fouille en 98, cette fois-ci, nous avons trouvé donc le cimetière de l'hôpital. Donc le cimetière qui était finalement l'hôpital Sainte-Anne, c'était un îlot à part entière qui était clôturé. Et donc à l'intérieur de cet îlot, donc il y avait toute une partie du terrain qui était occupée par le cimetière, cimetière qui était assez peu spacieux, donc finalement les sépultures étaient un petit peu j'allais presque dire entassées les unes sur les autres. Finalement il y avait des sortes de tranchées dans lesquelles les morts étaient disposés les uns derrière les autres pour essayer de gérer au mieux l'espace. Alors il faut savoir quand même que les gens qui étaient inhumés dans ce cimetière de l'hôpital, ce sont des gens qui sont décédés à l'hôpital évidemment, et probablement des gens peu fortunés, peut-être des gens dont les familles n'ont pas eu les moyens de les inhumer ailleurs. Donc c'est vraiment à l'inverse de ce qui a été trouvé par exemple dans le couvent des Jacobins, où on a une population relativement aisée qui était inhumée. Ici, c'est vraiment les classes populaires que l'on a retrouvées.
Sur cette partie précise, il me semble que vous avez collaboré donc avec Élodie Cabot, qui est anthropologue à l'INRAP. Qu'est-ce que va apporter le regard d'une anthropologue sur ces trouvailles? Et puis, quelle analyse pourrait-elle produire? Est-ce qu'il s'agit peut-être de décortiquer un peu les rites aussi de l'époque en matière d'enterrement des morts?
Oui, effectivement, Élodie Cabot, donc, qui est une collègue anthropologue de l'INRAP, s'est plus particulièrement chargée de la fouille du cimetière. Cimetière que nous n'avons d'ailleurs pas eu dans son intégralité, parce qu'il y avait eu des perturbations. Dans certaines zones, les tombes avaient disparu. L'anthropologue, en fait, dans un cas comme celui-ci, va étudier effectivement la manière dont les personnes ont été inhumées, va pouvoir étudier également les indices qui permettent dans certains cas vont permettre d'identifier la cause du décès ou d'identifier des pathologies. On pourra savoir pourquoi certaines personnes justement ont fait ce séjour à l'hôpital et puis sont décédées, certaines pathologies sont détectables au niveau des ossements. Ça va nous donner des informations sur les conditions de vie de la population, des populations pauvres de l'époque notamment.
D'accord. On parle de combien de sépultures sur ce cimetière ?
Alors, nous n'avons pas tout fouillé, surtout parce que l'emprise de la fouille n'a pas concerné l'intégralité du cimetière. Donc il y a encore, dans certains secteurs de la place Sainte-Anne, sous les pieds des gens qui circulent, il y a encore des gens qui sont enterrés. Il est difficile de dire exactement combien de sépultures étaient présentes et composaient ce cimetière. Mais bon, nous avons étudié plusieurs centaines nous avons fouillé plusieurs centaines de sépultures. Mais il y en a encore d'autres.
D'accord.
On est absolument incapable, à l'heure actuelle, d'évaluer la population qui a été inhumée à cet emplacement. D'autant, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a eu des perturbations qui ont fait disparaître des pans entiers de ce cimetière. Des perturbations d'époque contemporaine, des réseaux, des fausses implantations d'arbres, des choses comme ça. Ça n'était pas, les vestiges n'étaient pas complets.
Et par rapport à la population totale de l'époque, s'agissait-il d'un cimetière de grande envergure ou quelque chose de taille moyenne peut-être, je ne sais pas.
J'avoue que
C'est difficile à reconstituer.
Oui, il est difficile de répondre à une question pareille. Bon, c'est vrai que finalement, chaque paroisse avait son cimetière. Mm-hmm. Donc là, on est dans un contexte un peu particulier. Ça n'est pas un cimetière classique. On n'est pas dans le cadre d'un cimetière paroissial.
Oui, c'est vraiment le cimetière à l'hôpital, en fait.
Donc, c'est un peu particulier.
Allez, tout de suite, on s'écoute le groupe Amario avec son titre Bridges, dans le Labomatique, bien sûr. Vous êtes toujours à l'écoute du Labomatique sur Radio Campus Rennes. Retour Place Sainte-Anne en compagnie de Dominique Pouille, chercheur à l'INRAP. On parle du cimetière qui est situé au nord-ouest donc, de la place Sainte-Anne, mais au nord, il me semble qu'il y avait aussi des habitations avant que celles-ci soient détruites pour laisser place à l'église qu'on connaît aujourd'hui. Savez-vous des choses peut-être particulières de ces habitations? Est-ce qu'il est possible peut-être de reconstituer un semblant de vie sociale de l'époque?
Oui, alors effectivement, pour replacer ça un petit peu dans son contexte, les corps de bâtiments de l'hôpital étaient situés au nord-ouest de la place, mm-hmm. Le cimetière était situé à l'est.
D'accord.
Et donc cet îlot, le long de cet îlot, en fait, au nord, il y avait une ruelle qui s'appelait la ruelle Sainte-Anne, mm-hmm. Qui séparait l'îlot de l'hôpital d'un îlot qui se développait plus au nord, à l'emplacement de l'actuelle église Sainte-Anne-Saint-Aubin, et puis à l'emplacement de cette fameuse maison au pignon du bonnet qui a été démolie. Et donc, dans la continuation de cette fameuse maison, il y avait d'autres maisons qui remontaient à la fin du Moyen-Âge, et qui finalement constituait la façade de l'îlot qui était plus au nord donc que celui de l'hôpital. Donc nous avons retrouvé effectivement les traces de ces maisons qui ont été détruites à la fin du 19e siècle pour la construction de l'église actuelle. Nous avons retrouvé des caves, l'emplacement des caves, et puis des puisards d'évacuation d'eau usée à l'arrière des maisons, hein, des puisards donc, de latrines aussi, qui ont d'ailleurs perturbé les vestiges antiques. Mais par contre, là encore, comme pour l'hôpital, les niveaux de sol de ces maisons étaient à l'altitude d'aujourd'hui, hein, et donc finalement, nous n'avons trouvé que les fondations. Les sols avaient disparu.
Alors, le deuxième grand champ de découverte de ces fouilles archéologiques de la place Sainte-Anne, ça concernait bien sûr la ville de l'Antiquité, donc ça c'est votre spécialité, donc Condate, créée, comme vous l'avez rappelé, ex nihilo vers l'an 10 avant Jésus-Christ. Mmh. Entre autres, deux fours ont été découverts, et qui attestait peut-être l'existence d'un atelier de verrerie.
Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, on a retrouvé un carrefour de rue de la ville antique, et donc nous avons retrouvé l'angle de l'îlot qui se développait au sud-ouest de ce carrefour. Et donc, à un moment donné, probablement dans le courant du second siècle, s'est développé un atelier de verrier, un artisanat verrier, donc, dont nous avons retrouvé deux fours principaux et peut-être un troisième four complémentaire. Il semblerait que l'atelier était nettement plus important que ce que nous avons pu percevoir. Notamment, je pense qu'il se développait un peu plus vers le sud, à l'emplacement justement qui a été perturbé par les caves des maisons d'époque moderne. Parce que nous avons retrouvé pas mal de fragments de fours de verrier un peu partout. Et donc, ce que nous avons retrouvé nous permet d'affirmer qu'il s'agit donc d'un atelier de verrier dans lequel on recyclait finalement des verreries brisées. Il ne s'agit pas d'un atelier de production.
Ça, c'est étonnant, ça, hein, pour le...
Effectivement, pour replacer ça un petit peu dans son contexte, les corps de bâtiment de l'hôpital étaient situés au nord-ouest de la place. Mm-hmm. Le cimetière était situé à l'est.
Hein, d'accord.
Voilà. Et donc cet îlot, le long de cet îlot, en fait, au nord, il y avait une ruelle qui s'appelait la ruelle Sainte-Anne, mm-hmm. hein, qui séparait l'îlot de l'hôpital d'un îlot qui se développait plus au nord, à l'emplacement de l'actuelle église donc Sainte-Anne-Saint-Aubin, et puis à l'emplacement de cette fameuse maison au pignon du bonnet qui a été démolie. Et donc, dans la continuation de cette fameuse maison, il y avait d'autres maisons qui remontaient à la fin du Moyen-Âge, et qui finalement constituait la façade de l'îlot qui était plus au nord donc que celui de l'hôpital. Donc nous avons retrouvé effectivement les traces de ces maisons qui ont été détruites à la fin du 19e siècle pour la construction de l'église actuelle. Nous avons retrouvé des caves, l'emplacement des caves, et puis des puisards d'évacuation d'eau usée à l'arrière des maisons, hein, des puisards donc, de latrines aussi, qui ont d'ailleurs perturbé les vestiges antiques. Mais par contre, là encore... Comme pour l'hôpital, les niveaux de sol de ces maisons étaient à l'altitude d'aujourd'hui, hein, et donc finalement, nous n'avons trouvé que les fondations. Les sols avaient disparu.
Très bien. Alors, le deuxième grand champ de découverte de ces fouilles archéologiques de la place Sainte-Anne, ça concernait bien sûr la ville de l'Antiquité, donc ça c'est votre spécialité, donc Condate, créée, comme vous l'avez rappelé, ex nihilo vers l'an 10 avant Jésus-Christ. Entre autres, deux fours ont été découverts et qui attestaient peut-être l'existence d'un atelier de verrerie.
Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, on a retrouvé un carrefour de rue de la ville antique, et donc nous avons retrouvé l'angle de l'îlot qui se développait au sud-ouest de ce carrefour. Et donc, à un moment donné, probablement dans le courant du second siècle, s'est développé un atelier de verrier, un artisanat verrier, donc, dont nous avons retrouvé deux fours principaux et peut-être un troisième four complémentaire. Il semblerait que l'atelier était nettement plus important que ce que nous avons pu percevoir. Notamment, je pense qu'il se développait un peu plus vers le sud, à l'emplacement justement qui a été perturbé par les caves des maisons d'époque moderne. Parce que nous avons retrouvé pas mal de fragments de fours de verrier un peu partout. Ce que nous avons retrouvé nous permet d'affirmer qu'il s'agit donc d'un atelier de verrier dans lequel on recyclait finalement des verreries brisées. Il ne s'agit pas d'un atelier de production.
C'est assez étonnant ça, hein, pour le grand public peut-être, enfin, je ne sais pas moi, en tout cas j'ai été assez étonné de parler de recyclage.
Oui, on recyclait déjà à l'époque effectivement. Disons que la matière première verre, elle vient du Moyen-Orient, elle vient d'Égypte. Bon, il y a tout un commerce du verre qu'on connaît bien maintenant, avec des importations de pain de verre par la Méditerranée. Hein. On a d'ailleurs quelquefois retrouvé des épaves contenant ces cargaisons de pain de verre au fond de l'eau. En Gaule notamment, on ne produisait pas, sauf exception, on ne produisait pas cette matière première verre. On se contentait soit de façonner des objets à partir des pains de verre qui étaient importés, soit de recycler donc des objets brisés, en refondant ça, en brisant ça en menus morceaux et en refondant ça dans des creusets. Et donc on peut identifier finalement la présence de verre recyclé, non pas par les fragments de verre qu'on retrouve éventuellement sur les sols des ateliers, mais en étudiant la composition chimique des objets. Parce qu'on s'aperçoit finalement que plus on avance dans le temps, plus la composition chimique des objets s'éloigne de celle des pains de verre qui sont importés, ce qui montre qu'il y a des mélanges, de très nombreux mélanges, et c'est comme ça qu'on déduit notamment qu'il y a du recyclage.
Qu'a-t-on découvert aussi sur cette période antique que vous ne connaissiez pas déjà, sachant qu'on l'a précisé en début d'interview, c'est quand même l'une de vos spécialités, la reine antique?
Alors oui, on a découvert des choses, des vestiges très très intéressants. On a notamment la chance d'avoir découvert les vestiges d'une immense installation, d'un immense bâtiment probablement, qui a été installé au tout début de notre ère ou à l'extrême fin de l'ère précédente, juste au moment de la création de la ville. Il s'agit de quelque chose qui n'a été que très partiellement perçu, parce que finalement cette construction dont le sol était encore présent s'étendait nettement au-delà de l'emprise de la fouille, que ce soit vers le sud mais aussi vers le nord et probablement vers l'ouest. Il s'agit d'un bâtiment qui a été installé avant la création des rues, donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant puisqu'on est vraiment au moment de la création de la ville, et donc ça nous indique qu'il y a que ce bâtiment finalement disposait d'une galerie, une galerie de circulation qui faisait plus de 7 mètres de large, qui était soutenue par d'énormes poteaux qui étaient plantés dans le sol, avec un sol qui est constitué par un caillouis de galets très très bien compacté, qui est vraiment extrêmement plan, et ça nous évoque une construction, j'allais dire monumentale, même si c'est quand même de l'architecture de terre et de bois. C'est une construction monumentale, probablement à vocation publique. Alors les questions qui se posent, il y a deux possibilités d'identification. Finalement, les points de comparaison qu'on peut retrouver pour ce type de bâtiment renvoient systématiquement en Germanie, dans les camps militaires d'époque augustéenne, où on trouve des bâtiments similaires qui sont ce qu'on appelle le quartier général finalement de ces camps. Ce qu'on appelle les principia, ça évoque la possibilité d'une présence militaire au moment de la création de la ville. L'autre possibilité, c'est qu'il pourrait s'agir de ce qu'on appelle le proto-forum de la ville, c'est-à-dire le centre politique, économique de la cité.
C'est l'hypothèse qui est formulée précisément, oui, c'est ça, c'est que formulez l'hypothèse qu'il s'agit là des éléments peut-être de la présence du premier espace public à Rennes.
Voilà, c'est ça. Donc il sera difficile de trancher. L'étude la post-fouille vient de démarrer, donc on va essayer d'approfondir les recherches, mais les deux hypothèses principales, ce sont celles-là. Effectivement, il pourrait s'agir d'un protoforum qui a ensuite été abandonné, qui a été rasé, on ne sait pas pour quelle raison pour l'instant, et qui aurait été remplacé par un forum probablement plus petit, situé en dehors de l'emprise de la fouille, peut-être un peu plus au nord. L'autre possibilité, c'est effectivement donc ce que je disais tout à l'heure, qu'il pourrait s'agir du quartier général de troupes qui auraient stationné à Condat au moment de la création de la ville. On sait que les militaires, dans de nombreux cas, ont aidé à la création des chefs-lieux de cité au moment de l'époque augustéenne. Voilà les hypothèses actuelles. Alors c'est vrai que l'hypothèse militaire est soutenue par le fait que non loin de là, sur le couvent des Jacobins, par exemple, on a trouvé un glaive de la même époque. Un peu plus au nord, rue de Saint-Malo, on a trouvé tout un lot d'armements avec un casque de cavalerie donc, qui est conservé au musée de Bretagne il y a quelques années. Donc on sait qu'il y a une présence militaire à cette époque-là. Donc on a des indices, on va essayer d'approfondir les recherches pour trouver une solution, une réponse, mais bon... À voir.
On arrive déjà au terme de cet entretien, Dominique Pouille. Peut-être que pour nos auditeurs, vous pourriez peut-être nous ramasser en quelques phrases ce que sera le plan de travail pour les post-fouilles de la place Sainte-Anne. Quelles sont les grandes étapes qui s'annonce.
Alors, les étapes, finalement, sont toujours les mêmes quand on fait ce qu'on appelle, nous, chez nous, une post-fouille d'opération. Donc, il y a plusieurs spécialistes qui vont travailler. Alors, on a des céramologues qui travaillent sur le mobilier céramique donc, qui a été exhumé. Bon, on a évidemment, ici, sur la place Sainte-Anne, le volet anthropologique, dont se charge Élodie Cabot. Elle travaille depuis quelque temps sur les sépultures, sur les squelettes. Et puis, il y a le volet numismatique aussi, l'étude des monnaies qui ont été retrouvées en fouille. Et à côté de ça, donc, il s'agit également de reconstituer le puzzle de la superposition des couches archéologiques les unes sur les autres, ce qu'on appelle, nous, le diagramme archéologique, le diagramme stratigraphique, c'est-à-dire qu'on va... reprendre toutes les fiches d'enregistrement de chaque couche qui a été fouillée pour les repositionner donc les unes par rapport aux autres, un petit peu comme si on reconstituait j'allais dire presque en 3D donc la superposition des niveaux archéologiques de façon à pouvoir décrypter l'évolution, voir quelles sont les transformations qui ont été faites, comment le site a évolué au fil du temps. Et ensuite, en comparant la succession des niveaux archéologiques et les mobiliers qui sont contenus, on va pouvoir expliquer l'évolution du quartier.
Une publication apparaître peut-être au moment où tout ça sera clair.
Alors dans un premier temps, donc il y a un rapport de fouille à produire, et puis effectivement un peu plus tard, une publication donc devrait normalement voir le jour. Alors peut-être pas une publication uniquement consacrée à cette fouille. Il est toujours possible, comme j'ai procédé pour la synthèse de Rennes antique, il est possible de produire un document qui va synthétiser les données des nouvelles fouilles ont été réalisées de façon à compléter donc Rennes antique.
La réintégrer dans un ensemble un peu plus vaste.
Voilà, donc. Tout à fait.
Le Labomatique.
L'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Le Labomatique, c'est déjà fini pour cette semaine. Retrouvez tous les podcasts de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr.